Vous écoutez
RMC. RMC, Roten Régal.
Et la casquette Nissan, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette Nissan.
Le multiplex.
Comme tous les vendredis, dans Roten Régal, à 19h, on lance la journée de Ligue 1 avec nos correspondants en région. On lance donc la 32e journée avec Jean Baumel, le leader dans le Nord. Salut Djibo.
Salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut Captain. Bonsoir à toutes et à tous.
Salut Djibo. Avec toi, on va parler de Metz, Lille, ce soir 21h, mais également de Lens, Lorient, dimanche 15h. Clément Brossard est avec nous, le Monégasque, la Côte d'Azur. Salut Clément.
Le soleil et tout ça. Salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut Captain.
Monaco, Dijon, dimanche 17h pour toi. Et Nice, Reims, dimanche 15h. Julien Landry est avec nous. Salut Julien.
Bonsoir messieurs.
Salut Julien.
J'ai eu une longue période de mise au placard quand même.
Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon coco?
Ça allait avec ton
c'était
club.
C'était plus le frigo là, c'était le congélateur.
Ça allait avec ton club.
Pourtant, t'avais battu Lille.
Et ouais, mais moi, les choix des chefs, des fois tu les comprends pas.
Mais là on voulait te rappeler parce que quand Derzakarian va va re-signer, on s'est dit allez, faut qu'il nous annonce des choses.
Il a sorti de champagne Julien là, plein de bonnes conférences de presse.
On va regagner en humour ce soir. Je suis pas sûr en information mais en humour sûr.
Alors avec toi évidemment, Montpellier Marseille samedi 21h, on dira un mot également de Nîmes à Brest dimanche 15h. Et puis Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Flo.
Salut les amis, salut à tous.
Montpellier-Marseille est donc également pour toi. Et on va débuter par le leader, par Lille, Djibo. Est-ce que l'absence de Jonathan David peut coûter cher à Lille, selon toi?
Écoute, quand on voit ses stats, c'était plutôt intéressant. Sur les 12 derniers matchs, il a mis 8 buts quand même, Jonathan David. Son total est de 10. On va pas rappeler le début de saison qui était raté, On rappelle ses plus gros transferts, 30 millions d'euros. Alors, grosse blessure quand même parce que, on se souvient, ça aurait pu coûter un rouge à Gay parce que, il a une entorse avec rupture du ligament, de la cheville droite. Alors, ce qui était assez étonnant, parce qu'on l'avait vu avec une grosse poche de glace, durant la mi-temps, durant la deuxième période, la semaine dernière au Parc des Princes, ce sont les propos de Christophe Galtier hier qui semblait vraiment confiant. Il parlait d'un retour éventuellement contre Lyon. Veut dire le 25 avril pour un match à 21h, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il le voit marcher normalement, alors après il dit donc il disait c'était plutôt bon signe. Franchement il semblait confiant, donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt une bonne chose, mais il va falloir faire sans lui quand même pendant deux matchs voire trois. Lyon, ça me paraît un peu prématuré, mais pourquoi pas. Et la chance entre guillemets de Christophe Galtier, c'est que Bourak revient au bon moment, même s'il a pas marqué avec Lille, mais il a été très bon avec sa sélection lors de la trêve internationale.
Jérôme, la France peut peser?
Oui, elle va peser parce que Djibo te l'a dit, c'est quand même un homme qui était revenu en confiance, qui a montré des qualités, qui a marqué des buts, et pour un attaquant c'est quand même le plus important. Christophe Galtier lui fait très souvent confiance, donc oui, c'est un point noir, même s'ils ont des solutions de rechange, c'est un point noir. Après, pour le délai de la blessure, moi je suis, on peut pas être dans sa cheville dans tous les cas, mais je, en termes de d'arrachement des ligaments, je sais de quoi je parle. Je l'ai eu assez souvent aux chevilles, et c'est vrai que le mot comme ça peut faire peur, les ligaments de la cheville arrachés. Alors que non, pas du tout. C'est vraiment par rapport à la douleur. Et quand tu arrives déjà à mettre le pied par terre, en général, ça va assez vite la cicatrisation derrière. Donc moi, je serais pas étonné en effet qu'il y ait un petit mois d'arrêt seulement et qu'il arrive à reprendre. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Parce que Lille a besoin d'avoir toutes ses armes pour lutter jusqu'au bout.
Oui, son absence se fera pas sentir aussi, Captain, s'il y a le réveil de Bourak Yılmaz. Si on voit le Yılmaz de la sélection.
Oui, le réveil. Non, mais le réveil. Bon, Djibo va
réveil à Lille. Dire,
sa petite entrée contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France avait été plutôt satisfaisante. Sa tournée avec l'équipe nationale a été triomphale. Je pense quand même qu'il y a des atouts. Si tu alignes une équipe avec Bamba, avec Yılmaz et avec Ikoné devant, avec Renato Sanchez, il me semble un tout petit peu dans le creux de la vague. Je sais pas si.
Bon, il a été généreux, je trouve, contre le PSG. Après, il a joué un peu de latéral droit.
Quand on dit d'un joueur qu'il a été généreux, en général, c'est qu'il a été à côté de la plaque.
Il a été mieux.
Il a été plein de bonne volonté, mais il en a pas piqué une.
Il est nul, mais il s'est battu.
J'ai pas choisi le bon mot. Il s'est sacrifié pour jouer au poste de latéral droit quand même. Bon.
Mais... ça, c'est comme ouais, c'est un match avec du faux rythme. Oui, dis-nous que c'est un match.
Oui, un match de merde.
Voilà.
Bon, Djibo.
Je plaisante,
Djibo. Oui. Bon,
je
plaisante, Djibo. Mais lui, il y a la cave.
Je plaisante. Ah,
bon, merci de ta générosité, Djibo.
Merci, Djibo.
On va donc passer à Monaco.
La et embrasse-moi.
Oui, oui. La défense monégasque, est-ce que ce serait pas la nouvelle arme pour Monaco dans cette course au titre?
Ah bah oui, Clément Dijon va en avoir besoin. Oui.
En tout cas, force est de constater, messieurs, qu'il y a une nette amélioration du secteur défensif à Monaco. Il y a un mois et demi, l'ASM jouait sa 26e journée de championnat contre le Paris Saint-Germain. Et à cette époque, Monaco avait déjà encaissé 37 buts, autant que Saint-Etienne, qui était 15e de Ligue 1. Alors ce match, ça a été
c'est
le début d'une,
maintenant.
D'une défense de fer. Exactement. C'est la défense de Monaco, la référence contre le PSG. Alors Monaco a enfin pris conscience, vraiment, depuis ce match au Parc, qu'il était capable de tenir une rigueur défensive sur l'ensemble d'une rencontre. Et depuis, ils ont enchaîné 7 clean sheets sur leurs 8 derniers matchs Ligue 1 plus Coupe de France. L'unique but encaissé depuis le 21 février correspond à la défaite 1-0 à Strasbourg, la seule de 2021. Aujourd'hui, Monaco est l'équipe qui concède le moins d'occasions contre elle dans les 5 grands championnats européens. Ce sont les stats. Le club de la Principauté a également retrouvé un gardien, Benjamin Lecomte.
Ah, critiqué, ben voilà.
Pas mal décrié. Cible favorite, on peut le dire, de notre Captain Larquet. Ouais, oui. Parfois a raison, c'est vrai.
Non. Mais il n'est pas revenu à un bon niveau? Il n'est pas revenu à son niveau?
Il est revenu, c'est vrai. Et le gardien était d'ailleurs en conférence de presse cet après-midi. La conscience qu'après sa fracture à la main, il lui a fallu du temps pour revenir. Il a beaucoup travaillé pour se remettre à niveau. Il est premier à la salle, par exemple, à l'entraînement. Et puis, il a surtout conscience que ce trop grand nombre de buts encaissés était ce qui éloignait le plus Monaco des équipes de tête. Alors maintenant que c'est réglé, ce problème de la défense, peut-être que les Monégas semblent jouer à armes égales avec les autres concurrents au titre.
Ah, c'est sûr que c'est dans tous les cas, quand t'as une bonne équipe, il n'y a pas que la défense, c'est un équilibre à trouver, et c'est pour ça que c'est important dans les analyses de match et tout ça. On peut toujours dire c'est une équipe flamboyante. Monaco était le cas, prenait beaucoup de buts, mais en marquait aussi beaucoup, se créait beaucoup d'occasions. Mais je pense qu'il fallait trouver un juste milieu dans tous les cas, parce que prendre 2-3 buts par match comme ça a été le cas d'un moment,
peut-être en marque 4
pour
gagner, tu vas pas gagner beaucoup de matchs
des erreurs individuelles en plus
en effet. Un gardien qui était en manque d'efficacité. Alors après, est-ce que c'était un problème de niveau? Là, je suis d'accord avec Jean-Michel que par moment, ça laissait un petit peu à désirer, qu'il n'avait pas le rôle qu'il devait avoir. Du moins, à Monaco, pour se battre, même pas pour le titre, mais pour les places en Ligue des Champions, se devait d'avoir un gardien digne de ce nom. C'est le cas actuellement aussi, avec une défense et un milieu de terrain, parce qu'on peut parler des défenseurs, mais le travail de Tchouaméni et de Fofana.
Fofana, récupérateur.
Franchement, c'est impressionnant.
Tchouaméni est encore blessé, j'imagine. On en reparlera.
Il revient. Donc, et puis même les joueurs ça de côté. Du moins, c'est un équilibre à trouver, et Monaco l'a trouvé très justement. En plus, ça n'empêche pas Monaco d'être vraiment assez spectaculaire et beau à voir jouer. Donc, vraiment, encore une fois, et tous les feux sont ouverts. Et puis quand tu reçois le dernier, qui est catastrophique. Il n'y a pas de quoi.
T'es quasiment déjà en Ligue 2.
Il n'y a pas de quoi avoir peur. Non.
Tu veux ajouter un mot sur Monaco, Captain?
Non, simplement que le retour de Tchouaméni donne un petit peu raison, peut-être, à Christophe Galtier pour la cheville de David.
Effectivement, pour le retour des
sur la torche. Oui, c'est vrai, parce que quand tu vois l'image.
Il l'avait prise volontiers par.
C'était un Islandais.
Ils ne pas leurs vacances ensemble. Non.
19h10, messieurs, après cette belle expression de Captain Larquet. On y va pour le premier tour des stades. 4 infos, et vous me dites, Jean-Michel et Jérôme, ce que vous retenez. Marseille, pour le déplacement à Montpellier. Est-ce qu'on a des infos sur la compo, Florent Germain?
Il y a des absents déjà, on le rappelle, hein, Rongier, Amavi, Nagatomo, Sakai. C'est la dernière minute, Sakai qui est blessé, qui ne s'est pas entraîné de la semaine et qui est donc forfait. Donc on devrait repartir sur un 3-4-3 comme contre Dijon, avec un retour de Tchaletatsar aux côtés d'Alvaro et de Balerdi en défense. Et l'incertitude, c'est concernant le poste de piston gauche. Est-ce qu'on remet Luis Enrique ou on relance Raoui? Pour le reste, a priori, pas de changement avec le trio Milik, Payet, Thauvin devant.
Et côté Montpellier, un retour important, Julien Landry.
Ouais, la bonne bonne nouvelle pour Michel Derzakarian, c'est le retour de TJ Savagnier, qui était absent du côté de Angers dimanche dernier, qui aurait pu jouer en Coupe de France mercredi, mais aucun risque pris avec le meneur de jeu montpelliérain, qui fera donc son retour demain soir à la Mosson au milieu de terrain, avec logiquement Jordan Ferry, même si lui a pris une grosse béquille du côté de Châteaubriand et qu'il a été ménagé pour la fin de semaine. Michel Derzakarian se montre confiant. Sinon, ça sera l'équipe habituelle, avec notamment Mollet, Delors, Laborde, Mavididi pour le quatuor offensif.
Montpellier-Marseille, je vous rappelle, demain 21h. Ce soir, 21h sur RMC, évidemment, Metz-Lille, la compo lilloise, les infos, Jean Baumel.
Ouais, bon, David forcément absent, puis aussi Yazicekovic, Diallo suspendu. Au milieu de terrain, c'est la grande question, c'est de savoir ce que Sanchez sera titulaire. Je ne pense pas, parce que Soumari avait été tellement bon contre Paris que c'est tentant de le remettre avec Benjamin André. La défense, on la connaît, Renildo, Botman, Font, avec le retour important de Celik à droite, Meignan dans le but. Et puis devant, bah, on verra si Bourak sera associé à Ikoné ou Ea, et Bamba bien sûr à gauche.
Dimanche 15h, Nice reçoit Reims avec un joueur qui s'est réveillé, Clément Brossard.
Oui, Casper Dolberg. Alors Adrien Urcea répétait depuis des semaines qu'il avait retrouvé le sourire. Il a enfin retrouvé le sens du but face à Nantes le week-end dernier. Il n'avait plus marqué depuis le 25 octobre en Ligue 1. Ça pesait sur son moral. Ce doublé à la Beaujoire lui a fait du bien. Et pour avoir évoqué son cas avec Didier Digard cet après-midi, même si Dolberg paraît très froid d'apparence, il est très heureux depuis quelques temps, m'a confié le grand ami Jérôme. Et le Danois devrait être titulaire face à Reims. Concernant Boudaoui et Attal, en revanche, il faudra encore attendre deux semaines pour les revoir.
De faire confiance à son expertise, Jérôme.
Ah ouais. Il l'a relancé. Hein.
Bon, là, il faut suivre les multiplex de Rotten Regal pour comprendre évidemment que Didier Digard est un ami de Jérôme. Qu'est-ce qu'on retient de ce tour des stades, Jérôme?
Qu'est-ce qu'on retient? La compo lilloise. Parce que je pense que ça va se jouer là, le titre pour.
Ça joue ce soir?
Le turnover. Bon, pas forcément ce soir, mais le turnover mis en place très souvent par Christophe Galtier, le choix des hommes. En effet, je suis d'accord avec Djibo sur le fait que Soumaré a été énorme et la paire devrait être remise sur le terrain. Mais c'est toujours pareil, il y a de la concurrence. Est-ce que Sanchez, tu l'écartes totalement? Est-ce que tu relances Ouéa, tu vois, Arroyo, même si...
Là, il faut faire les bons choix, là dans ce sprint final.
Il ne peut pas se rater. Voilà.
Dans une seconde, faut-il prolonger Derzakarian à Montpellier? Que faire des joueurs prêtés à Marseille? On continue les débats du Multiplex Ligue 1, tout de suite.
Rotten Régal, Jean-Louis Tour,
Jérôme Rotten.
19h14, toujours dans Rotten Régal, bien sûr, sur RMC avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. Allez, on continue avec nos correspondants pour lancer ce multiplex et cette journée de championnat.
Exactement, il y aura le multiplex européen à 19h30, mais pour l'heure, on est toujours avec Jean Baumet, Julien Landry, Florent Germain et Clément Brossard pour lancer la 32e journée de Ligue 1. Petite parenthèse, vous avez des nouvelles de Nicolas Paolorsi?
Depuis que Ben Arfa est...
Je sais pas, on n'a plus de nouvelles.
On n'a pas de nouvelles de Bordeaux non plus. Alors,
Là, je pense qu'il est...
On vous avait prévenu, après le match contre Marseille, en général, ils sont en vacances.
Ah, c'est vrai.
La saison s'arrête s'ils sont invaincus contre Marseille.
Et Nico, il a arrêté sa saison à Lisbonne en septembre dernier.
En août. Aussi, en août. En fait, il n'a jamais retrouvé sa condition physique.
Il n'a jamais vraiment démarré, Nico.
Ça, je vous confirme. J'y étais, j'ai vu. Oh là là, le désastre.
Il a tout donné en 15 jours. Ce 16 mai.
Il a tout donné sur 15 jours, Nico.
Bon, on l'embrasse et on espère qu'un jour il revienne avec nous.
Ouais, l'année prochaine.
Voilà.
Rendez-vous en août. S'ils sont en Ligue 1.
Oui. Ils ne sont pas encore maintenus, c'est
vrai. Non, ça va quand même, attendez.
Non, il leur manque une victoire. Bon, Gassé a dit.
36 points.
Ah, ce ne sera pas ce week-end.
7 points d'avance sur le barragiste.
Ouais, mais ils sont comme Saint-Etienne.
Ouais, c'est vrai.
Ah ouais, ils leur manque.
Ils y vont.
Ah, mais tout le monde va pas pouvoir descendre. On peut pas descendre.
Oui, c'est Saint-Etienne-Bordeaux, là.
Bah oui, bien sûr.
C'est un jeu. Je pense qu'ils peuvent faire un bon 0-0, ceux-là.
Si même avec un match de la peur comme ça, on peut pas venir.
Ça donne envie.
Ah oui, un point chacun. Et hop, on est maintenant. Oh,
alors, messieurs.
Oh, t'as raison, mon pauvre Jérôme.
Demain, c'est Montpellier-Marseille. Et.
Messieurs, et tout ça sur un faux rythme, hein, Jean-Michel.
Oui, bien sûr.
Avec beaucoup de générosité.
Avec des garçons généreux.
Avec de l'envie.
Alors, faut-il prolonger Michel Derzakarian à Montpellier? On pose cette question parce que c'est la tendance, Julien.
Oui, c'est même plutôt surprenant. Hein, tout semblait être réuni pour que Michel Derzakarian et Montpellier se séparent à la fin de l'année. Michel Derzakarian avait changé d'agent à l'intersaison en prenant des agents anglais pour essayer d'aller voir de l'extérieur. Laurent Nicolin pensait qu'après 4 ans, le cycle était terminé. Il voulait démarrer un nouveau cycle de 4 ans pour la venue dans le nouveau stade. Il y avait plein de noms qui avaient été évoqués. Et Bruno Genesio à une époque, Rémi Garde, Sabri Lamouchi, voire même le retour de Jean-Louis Gasset, de Bernard Blacard. Plein de noms avaient été évoqués. Ouais. Et puis, depuis quelques semaines, finalement, ben, Michel Derzakarian et Laurent Nicolin se sont rencontrés. Un premier rendez-vous pour savoir si les deux camps étaient d'accord pour travailler ensemble. Un deuxième rendez-vous où Michel Derzakarian a présenté un projet pour les années à venir. Et puis, un rendez-vous hier entre Laurent Nicolin, Bruno Carotti et les agents de Michel Derzakarian. Preuve que les discussions avancent. Michel Derzakarian a rappelé qu'il voulait finir la saison le mieux possible. Mais oui, aujourd'hui, la possibilité de voir Michel Derzakarian rempiler pour un long bail du côté de Montpellier est la tendance la plus forte qui se présente. Il faut dire que le bilan de Derzakarian, ben, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Qualifié en quart de finale de la Coupe de France, encore en lutte pour l'Europa League, qui amène Montpellier dans les 10 premières places depuis qu'il est en place à Montpellier. Voilà, bilan impeccable de Derzakarian. Il a réussi à valoriser aussi des joueurs. Rien à lui reprocher, donc c'est finalement presque logique que Derzakarian prolonge à Montpellier.
Ouais, ouais.
Ah, il faut qu'il s'aperçoive maintenant qu'ils n'ont rien à reprocher à Michel. Je pense.
Non,
que
mais c'était la fin d'un cycle. Jean-Michel, ils en sont convaincus. 4 ans.
Oui, mais
non,
enfin, mais tu viens de me citer, les éventuels successeurs. Je pense que il faut pas être grand clerc pour ne pas hésiter une seconde et continuer avec Michel Derzakarian. Si tu me cites que Rémi Garde, Genesio, qui tu m'as cité,
Jean-Louis Gasset, Bernard Blacquart.
Ah ouais, ça c'est pas droit.
Tu continues avec Derzakarian, ça c'est sûr. Hein, oui.
Là, il y a des comiques en plus. Hein. Thierry Loret aussi, non?
Non, c'était pas prévu. Pourtant, ça aurait été une piste à moi.
Je pense que là, tu pouvais être éclaté en conf de presse.
Bah, il arrive à nous raconter qu'il se marre avec Derzakarian parfois. Donc bon,
ça arrive. Non, ça arrive.
Ouais.
Bon.
Non, mais c'est vrai que moi, je rebondis là-dessus. C'est vrai que Jean-Michel a raison. Il fait un énorme boulot à Montpellier. Moi, souvent, je dis dans les clubs aujourd'hui de haut niveau, quand tu passes 3-4 ans dans un club qui est en fin de cycle.
Faut savoir lancer un nouveau cycle aussi.
Et Julien a raison de le dire. Après, le nouveau cycle, il peut aussi passer par le renouvellement d'effectifs. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont peut-être partir. Alors,
Ayrton, je pense qu'il en a plus fait qu'il n'en fera.
Ouais. Non, mais même, il y a des joueurs.
Laborde, Mollet, Mavididi, c'est des joueurs qui vont être.
Exactement, sollicités. Alors après, vu le contexte, est-ce qu'il y aura les sommes qui vont correspondre à. Il y a des joueurs en fin de contrat à Montpellier?
Là, les seuls en fin de contrat, c'est Daniel Congré et Vitorino Hilton.
Ouais, bon, ça. Non,
donc Daniel Congré va prolonger et Vitorino Hilton va intégrer le staff.
D'accord.
Ah, il va pas. Ah bon? C'est sûr, ça?
Ou il va prolonger.
Ah, parce qu'il voulait prolonger.
Infernal, lui. Mais t'as l'impression qu'il donne une info, on peut dire qu'il donne rien.
Ouais. Ouais, soit dans le staff, soit il prolonge.
Bon, bah, okay.
Merci Julien.
Soit un centre de formation.
Merci Julien.
Finir avec Nicolas.
Voilà. Le temps de parole est fini. Je sais pas pourquoi on t'a réintégré là. Marseille, on y
habitué,
va.
Moi.
Que doit faire l'OM de ses joueurs prêtés avec option d'achat? Il y a une longue liste et ce sera un des chantiers du duo Sampaoli Longoria, hein, Flo.
Exactement. Bah, vous allez vous mettre dans la peau justement de Pablo Longoria ou de Sampaoli. On a Balerdi qui sur le papier vaut 14 millions d'euros. Il est prêté par Dortmund. Lirola 12 millions prêtés par la Fiorentina. Cuisance, ça n'a pas été tout à fait déterminé, mais on est aux alentours de 15 millions quand même. Et Encham, 5 millions d'euros. Je vous donne les infos rapidement. Sampaoli veut conserver Balerdi et Lirola.
J'ai un petit malaise là.
Sur le Cuisance, 15 millions. Ouais. Sampaoli veut conserver Balerdi et Lirola. Ils sont en train de négocier avec les clubs respectifs pour faire baisser l'option d'achat, voire pourquoi pas envisager un deuxième prêt. Mais il a surtout un petit coup de cœur pour Balerdi. Il aime bien ce joueur, son anticipation, ses relances, sa grinta, même si tout reste à améliorer malgré tout, c'est un jeune joueur. Lirola également, ils aimeraient le conserver. Reste à savoir si il y aura évidemment les finances pour ce faire. Votre avis, messieurs, je sais pas. Balerdi, Lirola, est-ce que on prolonge ou on
prolonge pas? Écoute, je.
Oui, mais en faisant ça, en prolongeant les joueurs, en prolongeant ces joueurs. Je ne vois pas comment tu renforces ton équipe là déjà.
Non, mais tu peux après dans ces clubs là et encore plus à Marseille et le contexte de cette année, du moins tout ce qui s'est passé, il peut y avoir un temps d'adaptation plus ou moins long. C'est vrai que Balerdi, moi je fais confiance aux entraîneurs, c'est pas le premier. Hein.
Villas-Boas l'aimait bien aussi.
Exactement.
Il a laissé moins de temps de jeu.
Ouais.
Alors que Sampaoli, depuis qu'il est là, c'est 4 matchs, 4 titularisations. Il y a aucun doute.
Il faut aussi faire confiance au coach qui les voit au quotidien. Donc s'il en parle comme ça et s'il a envie de prolonger l'aventure, c'est qu'il estime. Alors après, il peut se tromper, mais mais il dénote pas dans cet effectif là et dans l'équipe. Moi ça me c'est pas surprenant de voir Berlerdi, pourquoi pas encore un an de plus à l'OM. Le montant, c'est un risque aussi parce qu'il est un petit peu élevé quand même vu
ils
les
ils iront jamais à mettre 14 millions d'euros.
Non mais c'est ça. Après l'idéal pour eux ça serait d'essayer de avoir un prêt au moins sur une année, et ça c'est possible de le faire, on le sait. Lirola, bah oui, ça apporte de la fraîcheur côté droit. On était tellement habitué à voir Sakai, comment celui qui est parti au Bayern,
Bounassar.
Voilà, d'un moment il faut renouveler aussi. Lirola a montré des choses intéressantes quand il est là, donc c'est pas dramatique de, du moins loin de là, de le garder. Voilà, mais bon, il en faut d'autres.
Mais tout ça, évidemment, c'est une enveloppe globale parce qu'il y aura énormément de mouvements cet été.
Ben oui.
Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas non plus mettre une vingtaine de millions d'euros sur ces deux joueurs. Donc ça va négocier dur parce que, on le dit sérieusement, il faudra imaginer 8-10 arrivées et peut-être autant de départs en comptant les fins de contrat. C'est un vrai chantier, une vraie année zéro la saison prochaine.
Après, Flo, s'ils n'arrivent pas à mettre Lirola, tu me dis que c'est 12 millions, c'est ça?
Oui, alors après c'est sur le papier.
Sur le papier.
C'est le montant de l'option d'achat. Ouais.
S'ils n'arrivent pas à tomber d'accord, même à 10 ou à 8, j'en sais rien. Là, ça peut être inquiétant pour structurer, moins reconstruire un effectif.
19h23, le deuxième tour des stades. On y va pour terminer ce multiplex. On va donner la compo ou du moins les infos du groupe monégasque qui reçoit Dijon dimanche à 17h, Clément Brossard.
Avec l'infirmerie qui continue de se vider à Monaco après Aurélien Tchouaméni cette semaine en Coupe de France, c'est au tour de Ruben Aguilar et de Sofiane Diop de revenir dans le groupe. Le premier avait contracté le Covid, le second est remis d'une fracture au cinquième métacarpe de la main droite. Et puis concernant la compo face à Dijon, Badi Achille pourrait se retrouver sur le banc aux dépens de Dizazi parce que sa performance en Coupe de France contre Metz n'a pas plu à Kovac. Tchouaméni devrait donc retrouver une place de titulaire, tout comme Ben Yedder, double buteur la semaine dernière face à Metz.
La course à l'Europe et à la cinquième place, Lens, Jean Baumel qui est touché par le Covid avant la réception de Lorient dimanche à 15h.
Exactement, Jean-Louis. 4 joueurs et des joueurs importants. Hein. Badé, notamment, Seko Fofana, Mauricio et Ganago qui ne sont pas souvent titulaires. Donc voilà, il y a eu d'autres tests de fait, pas de cas supplémentaires et on croise encore les doigts du côté de Lens qui a encore eu des tests effectués aujourd'hui. Autre mauvaise nouvelle pour Lens, c'est Sotoka touché au mollet. Et ça sera peut-être pas seulement le match contre Lorient, ça pourrait être plusieurs matchs pour l'attaquant lensois. Donc ça fait quand même 3 joueurs très importants. Donc ça sera peut-être pas si évident que ça pour les lensois face à Lorient. On rappelle qu'il reste sur 10 matchs sans défaite.
La course au maintien cette fois, des nouvelles du barragiste Nîmes avant ce déplacement à Brest, Julien Landry.
Ouais, match à 6 points, un peu comme la semaine dernière contre Saint-Etienne. Les Nîmois qui ont l'occasion de remettre peut-être Brest dans la course au maintien. Ils devront faire sans Anthony Briançon, est sorti blessé contre Saint-Etienne, victime d'une rechute mais peut-être moins grave que prévu. Lucado lui aussi qui est sorti sera apte pour tenir sa place, même si Lamine Fomba va faire son retour, le milieu de terrain qui était suspendu. On devrait approcher la même équipe qui s'était imposée à Lille il y a 15 jours.
Et puis à Marseille pour le déplacement à Montpellier, sans doute peu de chance de voir Valère Germain qui joue très peu avec Sampaoli.
Oui, ça vous fera peut-être réagir, mais c'est vrai que c'est pas qu'il joue très peu, c'est qu'il a joué 0 minute depuis que Rolfe Sampaoli.
Très très peu,
a pris ses fonctions. Non mais c'est assez Jean-Louis. Dingue. Valère Germain n'a pas joué depuis le 20 février.
Il est généreux, ce garçon.
Depuis le 20 février, Sampaoli, c'est clair, le message, il ne compte pas sur lui, il est en fin de contrat, il partira cet été. Alors le joueur est forcément vexé, mais assez fataliste, il continue de bosser, mais a priori, il aura encore très très peu de temps de jeu, voire 0 minute de temps de jeu demain à Montpellier.
Qu'est-ce qu'on retient de ce tour des stades?
Le match Brest-Nîmes.
Ah oui.
Ouais, Brest-Nîmes, la compagnie nîmoise, parce qu'en effet, c'est un match à 6 points pour eux. S'ils venaient à perdre, je pense que ça va vraiment se compliquer pour les Nîmois.
Jean-Louis, très surpris que tu retiennes Brest-Nîmes.
Non, en fait, je me suis demandé s'il avait bien écouté.
Non.
J'étais pas sûr qu'il arrive à nous sortir un peu.
Il a bien écouté, il m'a choisi.
Bah oui.
Quand il a pas d'idée, il pense à
Julien. Je peux vous dire que du côté de Brest, en tout cas, c'est le match le plus important.
Ah oui, on rappelle que c'est ton deuxième club de cœur. Tu nous en parles en permanence de Brest.
On va pas demander à Jérôme la compo nîmoise quand même.
Non, l'absence de Briançon, je pense qu'il l'a pas, par exemple.
Non, Briançon, bon, c'est un coup dur, mais bon.
Allez, merci. Merci Jean Pommel, Julien Landry, ciao, les gars. Germain Clément,
ciao, ciao, les amis.
Tous les matchs de la 32e journée de Ligue 1 sur RMC en direct.
Ils doivent te détester, les joueurs. Ils doivent te détester.
Joueurs. Bah ouais, non, mais moi Blackard me manque. Hein. On s'éclatait tellement à l'entendre.
Blackard. Ouais. Allez, le multiplex européen, les retrouvailles Roten, Polo Breitner dans un instant et tout sur le Classico avec Florent Bell. A tout de suite.
RMC, Roten Régal. Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h30, allez, la dernière demi-heure de Roten Régal sur RMC, bien sûr. Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet m'accompagne comme d'habitude. Allez,
le quiz tout à l'heure. 32-16 pour vous inscrire. Et puis le cadeau qui peut tomber. Il n'est toujours pas tombé dans Roten Régal. T'as dit que ça allait tomber, donc préparez-vous.
Ça va pas tarder.
Dès que vous entendez le signal sonore avec un bruit,
je pense que ça va tomber quand Polo va parler.
Ah, je sais pas. Vous envoyez foot par SMS au 732-16 dès que vous entendez le signal sonore. Le foot européen, on y va.
RMC, Roten Régal.
On va commencer par l'homme de la semaine.
Alors attends, d'abord on accueille Fred Hermel. Je sais pas si c'était lui l'homme de la semaine. Fred Hermel, notre spécialiste du foot espagnol.
Là, il va s'incliner.
Salut Fred.
Il s'en fout.
Moi, je suis l'homme de l'année.
Oui.
Au moins. Hola, chicos. Attends.
Moi, là, il est dans la lecture en ce moment.
Non, non. Et comme je suis dans l'émission de Monsieur Melon, il faut que je m'habille en melon.
C'est vrai. C'est pour ça que t'es appelé très souvent.
Ben voilà. C'est pour ça, parce que je pense que j'ai une idée de moi-même qui est assez proche de l'idée que tu te fais de toi-même.
Non, mais déjà, t'as une tête qui a la forme du melon.
Tant que j'ai pas la couleur, ça va, c'est bon signe.
Demain, le Classico, Real Barça, on va y revenir en longueur, mais l'homme de la semaine.
Bah, être vert, t'imagines, quand t'es vert, t'es pas en forme.
L'homme de la semaine, c'est Polo Breitner, notre spécialiste du foot allemand. Salut Polo.
Bonsoir.
Salut Polo.
Comment ça va, Polo? Comment ça va? Tu te remets?
Oh bah il s'est bien remis depuis deux mois.
Le directeur de l'Institut National de la Consommation et des Statistiques, il est là.
Mais là c'est plus de l'amour, c'est de la rage là cette semaine.
Ah non.
Pour qui? De la part de qui?
Vous pouvez plus vous passer de moi, mais apparemment. Je constate aussi la déformation de ce que j'ai dit, en tout cas, apparemment.
Ah, qu'est-ce qui a été déformé? L'anomalie statistique?
L'anomalie statistique, en fait, vous n'avez pas bien compris. Certains font exprès de ne pas bien comprendre.
Mais quand même dit que 4, sur 100 matchs, 99, le Bayern garde.
Bah oui,
parce que moi, je l'écoute. Hein, donc,
c'est vrai.
Bah oui, c'est exactement
c'est ça qu'on te reproche.
Est-ce qu'on n'a pas compris?
Après nous avoir bassiné avec l'anomalie, maintenant il nous prend pour des idiots. C'est-à-dire que c'est sans fin, tu vois. On n'a pas compris.
L'anomalie statistique, vous n'avez pas bien compris ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Parce que les gens ils commencent à dire bon, ça veut dire que Bayern va gagner au match retour, on pas bien, ils déforment complètement ce que j'ai dit, et c'est pas du tout ça.
Non, alors ceux qui disent ça, c'est de dire deux anomalies statistiques ne peuvent pas arriver.
Ben oui.
Donc du coup au retour, le Bayern va gagner.
Mais non.
Bah donc c'était pas une anomalie statistique.
Mais si, parce que si il se passe exactement la même chose.
Ah mais c'est.
Ça fera
c'est
deux anomalies statistiques.
C'est fou ça. Je vois surtout. Mais déjà, alors ce que je vais dire. Parce que, et c'est là où je pense ne pas avoir complètement tort sur ce que j'ai dit, c'est que j'ai reçu tellement de messages en privé, y compris de la cinquième colonne d'RMC, y compris de la concurrence qui m'envoie en me disant « Polo, bon, t'as compris, et merci d'avoir dit ce que beaucoup de personnes pensent, mais apparemment... »
Il n'y a que des supporters du PSG sur RMC, c'est pour ça qu'il y a des raisonnements.
Ah non, je pense pas qu'il y ait que des supporters du PSG, mais en tout cas de la France, il y en a beaucoup. Mais en plus quand j'entends que moi c'est mon Bayern, alors que je supporte l'équipe qui va rencontrer le Bayern Munich ce week-end,
Berlin.
Donc c'est quand même un petit peu spécial et c'est une façon de détourner ce que j'ai dit.
Bon, très bien. Jérôme, tu veux dire un truc à Polo là-dessus ou on enchaîne sur l'actu du week-end?
Non. Bon, on a dit ce qu'on avait.
Je remercie Kevin Diaz d'avoir compris ce que j'ai dit quand même.
Bah ça c'est l'homme des statistiques, oui. Ça,
et
c'est...
merci à Daniel aussi d'avoir compris ce que j'ai dit.
Non, mais attends, je sais pas si tu peux les remercier.
Moi, j'ai compris ce que t'as dit, mais je suis pas d'accord.
Non, je suis pas sûr.
Ah si.
Non, mais si, parce que en fait,
la façon de détourner.
Non, mais c'est pas une façon de détourner, c'est que Polo.
De dire par exemple que je défends ma boutique, déjà, ça permet de décrédibiliser le discours du mec qui est en face
de moi. Mais
je remercie quand même Roland d'avoir dit que je suis compétent.
Je vais t'expliquer un truc. Moi, je vais fêter mes 20 ans RMC en juillet. Ça fait 20 ans qu'on me dit que je défends ma boutique, et je le dis, je défends ma boutique.
C'est vrai. C'est vrai.
Mais on n'a pas dit ça.
Mais en fait, c'est pas ça. C'est plus les statistiques et on le sait.
Quelqu'un qui commence, quelqu'un qui commence un discours en disant Polo défend sa boutique, déjà il décrédite tout le discours que le gars a dit.
Non, mais ça, mais qui a dit ça ici, là? Moi, j'ai jamais dit ça.
Ah bon? Mon cher Jérôme.
Moi, Jérôme,
Que tu défendais le football allemand.
Que je défendais ma boutique. Je rappelle qu'il y a juste un article de la Süddeutsche qui a encore parlé de match absurde.
D'accord, ce que je veux dire, c'est qu'en Allemagne, on peut dire ce qu'on veut. Mais la réalité, Polo, je vais te le dire, et c'est pour ça que moi je suis pas d'accord avec ces analyses statistiques ou de ce que tu veux, c'est que déjà aux statistiques tu fais dire ce que tu as envie de dire. Mais un match de foot ne se gagne pas avec les statistiques. Et ça s'est vérifié à diverses reprises. Et l'expected goals là, le grand truc à la mode, qui te dit que dans telle situation tu dois marquer à 100%. Hier je l'ai démonté ce truc là, parce que ils te prennent juste l'endroit où t'es sur le terrain et là ils analysent, ils regardent même pas quel joueur tire, parce que entre Marquinhos, Cavani, Paoletta et tout ça, dans une situation là, c'est pas les mêmes qualités techniques déjà, dans un sens. Et après, il y a aussi la qualité du contrôle et la vision que tu as sur le terrain à ce moment-là, qui est pas pris en compte avec les expected goals. Donc le problème, c'est que ça, pour moi, c'est de la gnognotte, et que à l'arrivée, le nombre de frappes, ce que t'as pu dire, hein, qui est réel, en effet,
on parle pas de 5-6 frappes et tout ça, on parle de plus de 30. Un milieu de terrain se fait défoncer de la première à la 90e minute, quand il se fait prendre sur les côtés dans tous les sens, et qu'on me parle d'exploit,
ce qui est la réalité.
Désolé, ce n'est pas un exploit. Ce match est un braquage.
Mais non,
ce qui arrive, c'est de pas être d'accord.
Contre l'Italie en Coupe du Monde.
Mais tu peux pas comparer ces matchs-là, Polo. Ce que je veux dire, c'est que là, on parle d'un match de Coupe d'Europe. Alors après, c'est pas encore une fois dire nous, on les a joués avec Jean-Michel et on sait ce que c'est. Mais le problème, c'est que ça a ses limites aussi. Quand tu as pas vécu ça, et que quand tu as pas vécu des matchs de Coupe d'Europe, quel que le soit, avec n'importe quelle équipe qui a beau avoir les meilleurs joueurs du monde et la bonne maîtrise, tu sais aujourd'hui que quand tu vas jouer au Bayern Munich, qui est la meilleure équipe du monde, elle a le titre pour ça, c'est que tu vas souffrir d'un moment. Et c'est pas parce que tu souffres que d'un seul coup c'est un braquage quand tu gagnes. Quand tu marques 3 buts à l'extérieur et que tu te crées 6 ou 7 situations nettes de marquer des buts, on peut pas me dire que c'est un braquage. C'est tout, c'est aussi simple que ça.
Alors encore une fois, on a le droit de pas être d'accord. Voilà, et on a le droit d'essayer de convaincre l'autre, et si on n'y arrive pas, c'est la vie, c'est pas grave. On
passe à autre chose,
et on n'est pas obligé de dicter, on n'est pas obligé de faire en sorte qu'à la fin tout le monde pense.
Chacun a la force d'un débat.
Exactement. Alors, revenons au week-end, aux infos. Fred Souris, mais on va quand même commencer par les infos bavaroises.
Non,
on n'a pas donné les infos du Bayern. Au niveau infirmerie, Polo, avant ce match contre l'Union de Berlin. Vas-y.
En fait, après la rencontre, le journal Kicker avait sorti son numéro et avait parlé de, comme les Allemands ont perdu lors de rencontres évidemment cette semaine, avait parlé, tu vois, qu'en fait, il restait plus que l'espoir, le principe de l'espoir. Et ce qui est marrant, c'est que ils sont un espoir juvénile entre guillemets pour le Borussia Dortmund, mais en fait, on a l'impression qu'il y a une logique de fatalité du côté du Bayern Munich, qui lui, justement sur Twitter, envoie des messages très positifs pour le match retour. Mais qu'est-ce qui se passe, Lucas Hernandez n'est pas là, elle sera blessée encore pour ce week-end. Yvon Goretzka, on le sait, est très très douteux pour le match retour. Ils ont perdu encore, on ne sait pas qui va être au poste d'arrière gauche, par exemple, ce week-end contre l'Union Berlin, puisqu'Alfonso Davies est blessé et suspendu aussi. Donc on pense que ça va être Bounassar. Au milieu de terrain, il n'y a plus grand monde, on va peut-être rappeler Ravi Martinez. Zule, évidemment, est suspendu. Donc en fait, ça fait Lewandowski, Gnabry, Goretzka qui n'est pas là, qui me manque-t-il déjà tellement il y en a.
Hernandez,
Zule, etc. Qui font que Roca, l'Espagnol, qui est pas bon du tout en plus, il n'est pas opérationnel. Tolisso évidemment est blessé de long terme. Ça commence à faire beaucoup et surtout il y a un Bayern qui s'engueule, j'ai envie de dire, entre eux. C'est-à-dire que il y a des tensions qui existent depuis différentes semaines et qui commencent à réapparaître évidemment, et souvent ça réapparaît lorsque tu prends une défaite, lorsque tu perds, et officiellement bah
comme
voilà,
quoi, on, comme quoi comme
ça limite si chez Flick, oui. Évidemment ça, ouais. Ça date depuis longtemps, et là ben bien sûr c'est officiel que les deux ne peuvent pas, oui. On va dire se blairer, ou tout du moins que c'est très compliqué entre deux, si bien que Karl-Heinz Rummenigge a décidé de siffler la fin de la récréation,
la fin de la récréation,
c'est plus
oui,
possible, c'est plus possible, mais quand même quand Hansi Flick dit que l'effectif l'année dernière était qualitativement supérieur à celui de cette année, bon ben directement tu vises Hansi Flick. Tu as aussi, je rappelle, on est en train de régler son cas à Boateng. Boateng qui donc est officiellement sur le départ, y compris le Bayern Munich l'a officialisé. Mais vous avez pendant la trêve internationale Uli Hoeneß qui était, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps parce qu'il a évidemment pris du recul dans le club, qui avait été consultant sur la chaîne RTL pour la trêve internationale. Et on lui avait demandé est-ce qu'il faut rappeler, quels sont les 23 utiles pour l'Euro. Il dit non, Jérôme Boateng, on n'a pas besoin. Et vous avez Hansi Flick en conf de presse qui raconte quand, bah, écoutez, lorsqu'on est au Bayern, en général, on défend ses joueurs. Donc tout ça fait que le Bayern Munich, en ce moment, c'est très très compliqué. Il y a évidemment des problèmes de liquidité financière. Hein, c'est l'une des raisons pourquoi on ne peut pas faire ce qu'on veut, en tout cas pour l'année prochaine, au Bayern Munich. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est que les joueurs sont fatigués.
Et bah, comme tout le monde,
ça, ouais, malheureusement, le contexte.
Et je pense que ça arrive avec le contexte au très très mauvais moment.
Ah ouais. T'as oublié un blessé de ce match contre le PSG.
Qui ça?
L'arbitre du Classico.
Oui, oui, il y a l'arbitre aussi. Oui, oui.
C'est-à-dire que. Ouais. Et le Matteo Laos, Antonio Matteo Laos, l'arbitre, il a été très bon d'ailleurs, hein, l'arbitre
très,
du match.
Bon. Moi,
j'ai trouvé excellent.
Il est souvent très bon.
J'ai toujours trouvé excellent. Il est toujours très bon. Parce
qu'il laisse jouer et tout.
Il laisse jouer, il discute avec les joueurs, mais il se fait respecter tout le temps.
Non, mais c'est ça le plus important, c'est la discussion avec les joueurs. Ouais. Et comment les joueurs.
Mais ils savent qu'il ne faut pas aller trop loin avec lui quand même.
Il part, mais il est forfait pour le Classico.
Et il s'est blessé pendant le match, a priori. Il a une blessure musculaire. Donc, il joue. Non, mais.
C'est-à-dire que. Ah mais quand on vous dit qu'il faisait très froid, ben vous allez rigoler, vous, avec ben Masoud Oudou.
Ça se trouve, c'est ça, d'ailleurs, les petites blessures.
Ah ben
ça
oui.
Se trouve, les petites blessures musculaires qui sont apparues, c'est parce qu'ils ne sont pas échauffés comme ils
veulent.
Bah, Jérôme, c'est pas un claquage.
Et donc, il sera absent pour le Classico de demain. Ah, et comme ça, on peut faire la transition.
C'est claquer de la langue.
Oui, c'est claquer la langue, Jérôme.
Non, mais Polo a raison.
Polo aussi, d'ailleurs.
Gagnez maintenant votre place pour la finale de la Ligue des Champions.
Envoyez foot par SMS au 732-16. Foot au 732-16.
C'est parti, 19h42. Vous avez jusqu'à 20h02 pour envoyer foot par SMS au 732-16 pour tenter de gagner vos places pour la finale de la Ligue des Champions. On revient sur le Classico, Fred. Donc demain, Real Barça à Bade Bebas, au centre d'entraînement du Real. 21h, ce sera en intégralité sur RMC. Bien sûr, en plus de la Ligue 1, de Montpellier-Marseille. Bon, alors les infos, là, en veille de match.
Ouais, alors, contrairement à ce que dit Jürgen Klopp, c'est pas le stade d'entraînement du Real, c'est le stade de l'équipe B c'est un vrai stade.
Oui, bien sûr.
Non, mais on dit ça parce que, et on va enchaîner, c'est un classico de gentleman entre le Barça et l'Atlético. Rappelez-vous, les saillies énormes.
Entre le Barça et le Real.
Qu'est-ce que j'ai dit? Entre le Barça et le Real.
Bah, ça sent pas un bon obsédé. Week-end, ça.
Je suis tellement obsédé par l'Atlético que voilà,
ça vient.
C'est mon club de cœur. Oui. Et donc, des amabilités entre Benzema et Messi, des amabilités entre Koeman et Zidane. Koeman qui a répondu à Klopp, qui disait que, comme ils se sont fait balader, ils ont perdu 3-1, qui a dit, ouais, mais on était dans un stade d'entraînement et tout ça. Enfin, comme si, tu vois, enfin, je veux dire, c'était une excuse pas chère pour un petit entraîneur. Parce que,
qui répond à Klopp.
Bah parce qu'on a posé la question en conférence de presse à Koeman ce qu'il pensait et Koeman a dit
Koeman a dit
le Real Madrid joue où il veut, c'est un vrai stade, la pelouse elle est exactement quasiment au centimètre
la même
distance qu'à Bernabeu, donc c'était une mauvaise excuse. Donc voilà, quand on se rappelle les saillies qu'il y a eu entre Mourinho et Guardiola. Et en Espagne et Guardiola à l'époque, c'est bien, on n'est quand même pas dans une période pour faire du n'importe quoi. Voilà les infos. Bah, les deux stars de ce classico, finalement, sont pas celles qu'on attendait.
Ah, ils sont pas là. Bah, Ramos n'est pas là.
Non. Mais c'est-à-dire que.
Alors, c'est qui?
C'est Vinicius et Dembélé.
Ah oui.
D'un côté, c'est Vinicius qui est le héros entre guillemets du match contre Liverpool, puisqu'il a mis un doublé, premier but, deuxième but, dernier but, magnifique. Et de l'autre côté, Ousmane Dembélé, qui est le meilleur joueur du Barça depuis des semaines. Donc voilà, ce sont deux invités surprises en tête d'affiche, même si les deux grandes stars, on va dire la vérité, sont d'un côté Karim Benzema, de l'autre Lionel Messi. Au niveau des absents, Hazard pas convoqué, Ouais. Alors, il s'entraîne, mais Zizou ne veut pas prendre de risque avec lui, donc c'est ce qu'on appelle un choix de l'entraîneur. Hein. Pas de Ramos, pas de Varane, qui a toujours le Covid.
Ouais, ouais, bien sûr.
Pas de Carvajal, toujours blessé. Et du côté du Barça, Sergi Roberto et Piqué, qui étaient blessés, font partie du groupe.
Ça m'étonnera qu'ils jouent.
Voilà, ça serait. Non, ils seront pas titulaires.
Oui, oui, oui.
Ils seront pas titulaires.
C'est le Barça qui paraît avec un avantage, non? Avec le calendrier, le Real qui a joué en milieu de semaine, le Barça sur la dynamique.
Oui, mais la tendance, et je vais passer la balle à Jérôme, la tendance, le Real, ils sont remontés comme des coucous, là, après le très bon match contre Liverpool, alors que le Barça a fait un très mauvais match contre Valladolid, c'était lundi soir pendant l'after.
Gagné, mais c'était dur.
But de Dembélé à la 92e. Donc la tendance, physiquement, le Real a montré qu'il était bien. Mais bon, ça,
c'est
ce que je dis là. Le contexte dans un Real Madrid-Barcelone, ça compte quasiment jamais.
Oui, c'était tellement des matchs à part, tu l'as dit.
Il y a quand même eu le match aller où le Real avait mis quand même la main sur les rencontres, non?
Le match aller, c'est une très belle victoire, avec beaucoup de domination de la part du Real, avec un but extérieur du pied fabuleux de Luka Modric. Donc, on a vraiment le sentiment que ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, compte pas dans un classico. Tellement c'est un match en
deux. Ouais, et puis il y a des choses qui se sont passées depuis ce match aller, en effet. Et Barcelone est un autre niveau, mais aussi le niveau du Real est très bon. On l'a vu avec cette victoire contre Liverpool. La série, elle est très bonne. Ils savent très bien aussi que déjà le contexte, ce classico et l'importance de le gagner par rapport à la suprématie, mais surtout par rapport au classement.
Ah oui.
Ça va.
Barça deuxième, Real troisième.
Ouais, c'est difficile.
Il faut pas oublier quelque chose. Il y a quand même un leader qui s'appelle l'Atlético. Qui est devant.
Bien sûr, mais on a quand même l'impression que le champion, il est. Le vainqueur de demain aura pris une option intéressante quand même.
Ça, c'est vrai. Parce que le Barça. Alors après, ce sont deux entraîneurs qui ont été vilipendés, Zidane même menacé pendant toute la saison. Ouais. Et ben, tous les deux peuvent faire un doublé. Le Real, la Ligue des Champions, la Liga. Et le Barça, la Coupe du Roi.
Merci Fred.
Merci
Fred. Polo également. Bravo. En Allemagne.
Salut Polo.
Salut Polo. À la semaine prochaine, Polo.
Ah oui, bien sûr.
Oh bah alors là,
on t'attend mardi soir.
Moi, je suis remonté comme un coucou.
On a vu. Merci Polo. Merci Fred. Dans un instant,
Le quiz.
L'affrontement. Allez. Le vrai affrontement. Voilà. Il y en a un sur du débat à 18h30. Mais
celui-là,
celui qui compte, c'est maintenant.
C'est celui-là qu'on le plie.
À tout de suite.